Galia Ackermann, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes historienne et spécialiste de la Russie et votre dernier livre, coécrit avec Stéphane Courtois, s'intitule « Le livre noir de Vladimir Poutine ». Il est sorti en novembre dernier aux éditions Robert Laffont. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va parler du discours à la nation donné par Vladimir Poutine ce mardi 21 février, presque un an après l'offensive russe en Ukraine. Un discours qui a duré 1h45, dans lequel Poutine a surtout parler de la guerre en Ukraine, évidemment. Alors, première question, Galia Ackermann, que retenir et que penser surtout de ce discours du président russe?
J'ai été extrêmement déçue par ce discours parce que je m'attendais à ce qu'il fasse un bilan et je pense que même s'il avait donné un bilan honnête, il aurait peut-être lui-même compris certaines choses, à savoir qu'il ne peut pas gagner cette guerre. Mais à la place de ça, Poutine a répété ce qu'il a déjà dit des dizaines de fois, comme quoi l'Ukraine n'est que marionnette de l'Occident, c'est que les Russes ne veulent que reprendre leurs terres historiques, que ce ne sont pas eux qui ont commencé la guerre, etc. Et donc tout ce tissu de mensonges. Et une fois qu'il a dit ça, il n'a pas dressé le moindre bilan. Il n'a pas parlé des perspectives, il a dit que tout simplement, bon, bah, ils vont continuer selon le plan, quel plan, on ne sait plus, et qu'il faut agir avec beaucoup de précision et tranquillement et calmement. Donc tout cela, même pour les propagandistes du régime, je pense que c'était hautement bizarre, je dirais. Il n'a même pas voulu proclamer comme victoire les territoires qu'ils ont saisis. Il a parlé, en revanche, de plusieurs cadeaux, si l'on peut dire, du gouvernement. Voilà, on va relever les salaires, on va relever les retraites dans les régions nouvellement acquises par la Fédération de Russie, c'est-à-dire les territoires annexés qui ne se trouvent pas entièrement sous contrôle russe d'ailleurs. Il a parlé de la nécessité d'assurer l'éducation dans l'esprit russe, c'est-à-dire continuer à imposer une histoire réécrite, imposer la langue russe, imposer à la culture russe pour que donc les écoliers de ces territoires apprennent à aimer la Russie en quelque sorte. À part ça, en fait, la seule annonce un peu significative était la suspension de la participation de la Russie au traité New Start. Qui est un traité qui veut contrôler les armes nucléaires russes et américaines. Il a dit qu'on suspend ça parce que il y a aussi des armes nucléaires en France et en Grande-Bretagne. Ils ne font pas partie de ce traité, donc on ne peut pas savoir ce qui se passe chez eux. Alors que les Américains qui exercent en concert aussi avec les Européens vont fourrer leur nez, c'est son expression, donc dans nos bases. Mais même cela, il y a rien qui montre un élément réellement nouveau. Puis il a beaucoup parlé aussi de la nécessité de développer l'économie, de continuer à gazéifier le pays, parce que dans le pays de Gazprom, il y a toujours peut-être 30% au moins du territoire qui n'a pas de gaz. Il a parlé de la nécessité de s'occuper des familles, des militaires tombés au combat ou qui ont été sérieusement blessés, qui sont devenus invalides. Donc s'occuper de leur famille pour que chaque famille ait un assistant social à leur disposition, ce qui est aussi totalement absurde et impossible. Il y a déjà 100 000 ou peut-être plus de tués et blessés. Dieu sait combien de temps cette guerre va continuer. Je pense qu'il n'y a même pas une telle quantité d'assistants sociaux en Russie où cette fonction est très peu développée. Voilà un peu les enseignements de ce discours.
Alors Galia Ackermann, dans son discours, Vladimir Poutine a notamment déclaré par rapport à l'Occident « ils veulent en finir avec nous ». Est-ce qu'on a l'impression qu'à ce moment-là, le président russe s'est positionné en victime en quelque sorte par rapport à l'Occident? Et est-ce que c'est une façon habituelle de la part de Poutine de communiquer?
Vous savez, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. C'est même un peu affligeant à quel point tout ce qu'il a dit aujourd'hui n'est pas nouveau, parce que c'est une idée qu'il développe, lui, tout son entourage, et c'est les propagandistes du régime dans les talk-shows, etc. C'est que c'est l'Occident qui veut la peau de la Russie. On utilise l'Ukraine, en fait, c'est la guerre de l'Occident contre la Russie, et on veut dépecer la Russie, on veut détruire la Russie, on veut empêcher son développement normal, etc. C'est-à-dire, et encore une fois, il a répété ce qu'il a déjà dit maintes fois.
Et par rapport à la suspension de la Russie du traité russo-américain New Start, quelles seront rapidement peut-être les conséquences vraiment concrètes de la suspension de la participation de la Russie à ce seul traité qui reste encore bilatéral entre les États-Unis et Moscou?
Ce que la Russie ne veut surtout pas, que les Occidentaux, quels qu'ils soient, américains ou autres, viennent inspecter les bases militaires russes. C'était d'ailleurs aussi l'objection qu'émettait en son temps Gorbatchev à chaque fois quand on parlait des traités bilatéraux entre l'Union soviétique, puis la Russie et l'Amérique. C'était l'argument russe comme quoi, mais il y a aussi le potentiel nucléaire en France et en Grande-Bretagne, ils ne sont pas pris en compte, donc on ne sait pas ce qu'ils font, et par conséquent, ça nous est difficile de procéder à des limitations. Maintenant, ce discours est un peu ridicule parce que la France et la Grande-Bretagne ont quelques dizaines ou quelques centaines d'ogives nucléaires et pas du tout, plutôt des dizaines d'ailleurs, pas du tout la quantité de plusieurs milliers comme les Russes et comme les Américains. Donc c'est un prétexte. En clair, la Russie de Poutine ne veut pas qu'on fourre le nez, comme j'ai dit, son nez dans l'état du nucléaire militaire russe. Qu'on ne sache pas combien d'ogives ils ont aujourd'hui, etc. C'est un moyen d'éviter, d'esquiver le contrôle occidental.
Une dernière question, Galia Ackermann. Est-ce que, suite à ce discours, les mots de Poutine, ce qu'il dit par rapport à l'Occident et le fait qu'il ait vraiment envie, il l'a dit, hein, de poursuivre son offensive en Ukraine de manière méthodique, on comprend quand même une aggravation de la rupture entre la Russie et l'Occident. Est-ce qu'on s'attend à une aggravation, à une escalade dans ce conflit pour cette année 2023?
Ça dépend ce qu'on appelle escalade, c'est-à-dire... L'Occident donne de plus en plus d'armement à l'Ukraine. Les dirigeants occidentaux répètent que l'Ukraine doit vaincre. Ce que, bien sûr, les Occidentaux ne souhaitent pas, c'est de s'attaquer au territoire russe. On ne va pas envahir la Russie. Mais ce que l'Occident veut, c'est... chasser les occupants russes de tous les territoires, dans l'idéal, tous les territoires qui ont été reconnus comme frontières ukrainiennes en 1991, au moment de l'éclatement de l'Union soviétique. Cela comprend la Crimée et les régions du Donbass qui ont formé en 2014 les républiques de Donetsk et de Lugansk. Maintenant, bien sûr, il peut y avoir peut-être un compromis si le conflit s'éternise. Moi, je suis persuadée qu'au minimum, l'Occident soutiendra l'Ukraine jusqu'à ce que les territoires attaqués à partir de 24 février 2024 soient libres.
Merci beaucoup, Galia Ackermann, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historienne, spécialiste de la Russie, et je rappelle également le titre de votre dernier livre qui s'intitule « Le livre noir de Vladimir Poutine », livre coécrit avec Stéphane Courtois et paru aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup, Galia Ackermann.
Merci.